Un bonhomme parut moitié pêcheur, moitié paysan, une figure hâlée, boucanée par le vent de la mer, une peau d'un rouge de cuivre sale, rasée de plusieurs jours, toute hérissée d'une plantation de poils gris, raide comme les chaumes d'un champ moissonné. « Oh, il a l'air méchant !» balbutia Charlotte à l'aspect de cette sorte d'ours. Il baragouina quelques mots d'un accent très dur, la mine grimaçante, en portant la main à son béret de laine brune. « Diable, est-ce qu'il ne parle pas français ? C'est que j'ai oublié d'apprendre le bas-breton avant de venir ici. » Jacques Delors sua, souffla, roula des yeux. Impossible d'arracher au brave homme une syllabe intelligible. De temps en temps, quand son interlocuteur prononçait son nom de Keradenec, il faisait « Ya, ya !» C'était tout, ce « ya » gaélique, plus rocailleux encore que le « ya » germain. « Ça veut dire oui, voilà tout ce que je sais, » murmura Jacques très déconfit. « Hé, ce sera bien insuffisant pour nous faire servir, » répondit Farnèse. « Oh, moi, on me comprendra toujours, » reprit Delors d'un air entendu. « Bon, je connais ça, » se dit Henri Narquois, et se tournant vers sa femme qui reprenait un peu confiance, il lui souffla à mi-voix. « Je crois que nous allons rire. » L'architecte, les sourcils froncés dans une forte concentration d'esprit, se plante devant l'aubergiste visage contre visage, pour ainsi dire, et commence, articulant chaque syllabe comme s'il la mâchait, « Homme-lette. » Il regarde fixement l'homme, celui-ci impassible soutient son regard. « Hein, tu vois ?» lance Jacques à Farnèse. Il comprend déjà, comme il écoute. Le tout, c'est de s'exprimer clairement. Il n'y a que ça. Il a empoigné l'hôte par un bouton de sa veste et le voilà parti avec des mines, des roulements de prunelles, des exclamations d'une mimique du diable. « Omelette !» D'abord, naturellement. Il n'y a pas de bon déjeuner sans cela. « Omelette au lard !»« Au lard !»« Eh, ça y est !» Voyez cela d'ici. Pas aux fines herbes, surtout au lard. Au lard parce que nous avons faim, très faim. Les mains s'arrondissent, gesticulent, travaillent devant Keradenec attentif. Après cela, voyons un peu. Après cela, sardines, cela va sans dire. Au guivinec des sardines frites. Sardines. Et puis, il se caresse la barbe, tapote son front. Ah, côtelette. Côtelette. Bonne côtelette de mouton aux pommes de terre, comme de juste. Beaucoup de pommes de terre, gentiment arrangées. Fameux, la pomme de terre. Compris, eh, tu es un brave. Va, on te récompensera. Le breton ne bronche pas, suivant de l'œil tous les gestes, la bouche demi-béante, la tête un peu en arrière, ses longs cheveux dans le cou, tandis que Delors tantôt détache chaque syllabe, tantôt parle comme à un restaurateur parisien, très satisfait de lui, de son succès. Enfin du dessert. Dessert. Oh, presque rien. Un fruit pour madame. Il montre Charlotte. Pour nous, du fromage. Fromage. Maintenant, le café. Ah, café fort. Vrai café, sans chicorée. J'ai horreur de ça. Café, pas chicorée. Mais tu lui parles nègre, à ce malheureux, interrompt Henri. La langue universelle, mon bon. L'aubergiste est là, les yeux ronds, sans voix. Il n'a pas compris un seul mot, continue Farnèse. Tu crois ? « J'ai pourtant admirablement articulé, mon cher, une prononciation du conservatoire. On ne ferait pas mieux à la comédie française. »« À cet égard-là, parfait. J'ai très bien saisi, moi, mais pas lui. Le conservatoire, les Français, ce n'est pas pour les bas-bretons, mon pauvre ami. »« Tu doutes ? Tu vas voir cette fois, » riposte Jacques piqué au vif. Il se rapproche de nouveau du vieux, le fixe comme s'il voulait le magnétiser, et jette d'une voix tonnante « Omelette !» Puis il fait le geste de casser des œufs, de les battre, de faire sauter le mélange dans la poêle, imite avec ses lèvres serrées le « tch-tch-tch » des lardons rissolant sur le feu et hume imaginairement le résultat en ajoutant « Bon, ça, bon !» Plus animé, intéressé, Keradenec l'examine avec un visible plaisir et reproduit machinalement avec ses mains, avec sa figure, les mouvements de Delors, comme les enfants au théâtre copient sans s'en rendre compte les grimaces des acteurs qui jouent sur la scène. Jacques continue, dessine du bout du doigt une côtelette sur un coin de la table et le nez en avant, le cou tendu, les paupières baissées, psalmodie. « Bé, bé, bé !» Cette fois, le patron sourit. « Ah, il comprend le gaillard. Nous allons avoir notre affaire. » Il poursuit en imitant le poisson glissant dans l'eau, en représentant tant bien que mal une sardine pêchée et grillée, puis il moue un café supposé, le filtre, le goutte, le sucre, une pantomime complète. La représentation terminée, l'aubergiste reprend son mutisme et son immobilité. Jacques, furieux, l'interpelle. « Ah ça, espèce d'oursin, est-ce que tu crois que je te joue les guignols pour mon plaisir ?»« Dame, » explique Henri, Si je ne savais pas d'avance ce que tu veux dire, je crois que je ne te comprendrais pas plus que lui. Les gestes, c'est gentil. Encore faut-il les traduire, les souligner de quelques mots. Il vous croit fou tout bonnement, remarque Charlotte, qui a grand-peine à garder son sérieux. Attendez un peu, reprend Delort. S'il ne comprend pas cette fois, c'est que je lui accorde encore trop d'intelligence en le comparant à ces oursins dont il a les piquants. Et ma foi, j'y renonce, na. Que vas-tu faire ? Regarde. Il va dans la cour, ramasse de la paille, la rapporte dans la salle, s'accroupit dessus avec des cocoricots désespérés, comme s'il pondait, bat des ailes et termine en recommençant la scène de l'omelette. Keradenec se frappe le front, pousse un cri guttural et disparaît. « Ça y est, pas malheureux !» couaille Jacques, ruisselant de sueur mais triomphant. « Vous pouvez vous mettre à table. » Le patron rentre, tend à Delort une énorme clé rouillée, lui indique au fond de la cour une petite porte basse. Henri tombe sur une chaise en se tenant les côtes. Charlotte se retourne, ne pouvant plus se contenir. Jacques lui-même ne résiste pas à la contagion et c'est, pendant quelques instants, un rire convulsif, frénétique, à faire jaillir les larmes pendant que seul le bonhomme reste insensible, ahuri. L'accès calmé, la jeune femme se dirige tranquillement vers la cuisine, choisit à droite, à gauche, les ustensiles nécessaires, va au poulailler, rapporte des œufs, montre les volailles, indique les sardines, un homard et obtient enfin le déjeuner désiré.
Nous aurions dû commencer par là, remarque philosophiquement Farnèse. Rassasiés, ils se mirent à explorer ce pays si désiré, ce Guévinec au nom harmonieux. Hélas, ce fut vite fait, une côte plate, sablonneuse, s'étendant à droite et à gauche à perte de vue, sans autres accidents de terrain que ça et là quelques blocs noirâtres dépassant la grève blanche, monotone. Cela sentait le désert, la désolation, la fin du monde, sans rien de grandiose. À chaque instant, Charlotte, Henri et Jacques, désappointés, faisaient « Nous avons vu mieux que ça, et plus sauvage et plus beau, bien la peine de venir échouer ici. » Peut-être Pinmar les eut-il dédommagés. Ils avaient entendu parler de roches terribles, du sceau du moine, de vagues farouches assiégeant le granit déchiqueté. Ils manquèrent de confiance. Et puis la mer était comme une nappe d'huile, et Pinmar trop éloigné pour pouvoir pousser jusque-là. Ils restèrent enlisés dans les sables du Guévinec, attendant le soir avec impatience. La journée fut longue dans cette atmosphère de déception. Ils dînèrent tant bien que mal, plutôt mal en ce coin perdu, où pas un habitant ne parlait français et où on les regarda comme les sauvages de l'Océanie regardent les naufragés échoués sur leurs îlots de corail. Charlène en avait le frisson et elle eût bien voulu regagner Pont-l'Abbé le soir même, mais la carriole du boucher ne revenait que le lendemain matin. Il fallait se résigner et passer la nuit au Guévinec. Vers 9h30, après avoir traîné le dîner le plus possible, ils demandèrent leur chambre. Keradenec fit signe que le jeune ménage devait monter à l'étage supérieur et que Jacques Delort serait logé en bas. « Diable, on nous sépare, dit Henri, bas à son ami. Que crains-tu ? Nous sommes en pays de confiance. Fameusement isolé tout de même, j'aurais préféré t'avoir moins loin de nous. Allons donc, les Bretons sont braves gens malgré leur mine un peu barbare. Tu crois ? Absolument sûr, mon vieux. Bonsoir et bonne nuit. »
Ils se séparèrent. Charlotte éprouvait quelque émotion en gravissant l'escalier derrière Keradenec, dont les épaules énormes s'étalaient devant eux. Au premier, il poussa une porte, l'unique porte du palier, leur laissa une chandelle neuve dans un gros chandelier de fer et s'éloigna, après avoir amicalement secoué sa grosse tête à plusieurs reprises. « Et il n'a pas l'air trop méchant !» soupira la jeune femme, rectifiant sa première impression.